Bonjour à tous et bienvenue sur Le Gratin. Dans Le Gratin, j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Et pour tout vous dire, le paradoxe, c'est que, au fond, j'aime pas trop le mot succès. J'ai toujours l'impression qu'il y a une connotation négative, très matérialiste. Or, pour moi, le succès, c'est pas forcément financier, ça peut l'être, bien sûr, mais au fond, c'est plutôt simplement le fait d'atteindre ses objectifs, quels qu'ils soient. Et surtout, je pense, de prendre le temps d'apprécier cette réussite. Du coup, dans le podcast, j'essaie de parler du succès au sens large et j'ai déjà invité une grande chef pâtissière indienne, un pilote sur Mirage 2000, un designer de joaillerie aussi, un journaliste, une coach sportive et de très nombreux et talentueux entrepreneurs. Mon objectif, c'est qu'en une heure d'écoute, vous retiriez tous les principes, trucs, routines ou philosophies même de mes invités pour ensuite pouvoir les appliquer à vos propres projets. J'essaie de publier Le Gratin une fois par semaine et vous retrouverez toutes les notes de l'épisode, livres à lire, références ou citations sur le blog du podcast que vous retrouverez en lien dans le descriptif. Pensez d'ailleurs à vous abonner au podcast pour être bien sûr de ne pas louper un épisode. Enfin, et je passe à mon invité du jour, comme d'habitude, si l'épisode vous a plu ou que de façon générale le podcast vous fait passer un bon moment, alors n'hésitez pas à mettre une petite note sympa ou un mot doux sur iTunes, voire même à en parler autour de vous, ça compte énormément pour moi et qui sait, ça pourra aussi peut-être rendre service à quelqu'un dans votre entourage. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Kenza Sadoun El-Glaoui, créatrice du célèbre blog mode La Revue de Kenza. En plus de son blog, vous pourrez aussi retrouver Kenza sur son compte Instagram au pseudonyme Kenza SMG. Ce qu'il y a d'assez formidable avec Kenza, c'est que même si vous la rencontrez pour la première fois, vous aurez déjà l'impression de la connaître depuis toujours. Elle est comme ça, elle a un talent émotionnel hallucinant, comme j'en ai rarement rencontré. Autodidacte, elle abandonne ses études supérieures après 2 semaines passées en fac de langue et décide, bac en poche, de se confronter au monde du travail. À la clé, la création de son blog, La Revue de Kenza, qui deviendra l'une des références en contenu lifestyle et mode en France, à tel point que Kenza enchaîne depuis plateaux télé, publications dans les magazines les plus pointus et partenariats avec des marques prestigieuses. Je savais que j'allais passer un bon moment en interviewant Kenza, mais j'ai été surprise de découvrir une très grosse bosseuse qui s'est faite toute seule et avec un vrai souci d'authenticité pour sa communauté. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Kenza Sadoun El-Glaoui. Salut Kenza.
Salut Pauline.
Merci beaucoup d'être avec moi sur le podcast et bienvenue. Ça me fait super plaisir de t'avoir et d'autant plus qu'en fait tu vas bientôt partir aux US.
Ouais.
Donc c'est un peu un privilège de t'avoir avec moi ici encore à Paris. Donc j'étais contente de te parler et j'ai voulu commencer par un petit truc où j'ai fait mes recherches sur toi, tu t'en doutes, et ça m'a fait tout simplement hurler de rire.
Oui.
Donc j'aimerais commencer par ça. J'ai découvert ton deuxième compte Instagram, le compte donc Kenza SM Grosse, que je vous invite tous à aller voir, messieurs, dames, parce qu'il est quand même assez drôle et que c'est juste l'antithèse en fait du compte de l'instagrammeuse classique, parce que c'est un compte où tu ne postes que des photos ratées, des photos où tu es pas très jolie.
Oui.
Ça peut arriver, même si en vrai tu es très jolie.
Ça arrive souvent.
Et je voulais simplement te demander d'où est venue cette idée et pour toi, qu'est-ce que ça signifie, quoi?
Mais en fait, je sais même pas d'où est venue l'idée. C'est simplement que, tu sais, quand tu fais un shooting, tu prends des milliers de photos. Littéralement, quand tu enlèves ta carte de ton appareil photo, que tu plotes tes photos, tu as des milliers de photos, tu en sélectionnes genre une, voire trois. Et en fin de compte, il en reste beaucoup. Et je me suis dit à chaque fois, oh, c'est dommage de jeter toutes ces photos qui sont, bah, quand même la réalité de ce moment-là. Notamment ces photos où je suis pas très belle, pour dire très moche même, parce que je fais exprès de mettre en avant
deux,
des
trois
photos où je suis vraiment vilaine, je fais des têtes vraiment bizarres, et je me suis dit bah autant en faire quelque chose et les mettre sur un compte. Ça prend pas, enfin le but c'était pas d'en faire un compte Insta hyper connu, mais c'était juste je sais pas, je trouvais ça marrant de poster ces photos, comme tu dis, à l'antithèse des photos officielles qui apparaissent sur mon feed, avec une légende, parce que je recherche du coup des légendes un peu façon même, tu sais, comme, enfin, des trucs très
très, très décalés,
ouais, assez décalés, assez bêtes finalement, et voilà. Et il a son petit nombre de followers et c'est cool, quoi.
C'est clair. En tout cas, il m'a bien fait rigoler.
Merci.
Mais si on est un peu plus sérieux maintenant, je voulais aussi commencer par quelque chose que je connais un petit peu moins bien de toi, c'est ton enfance et de ta famille. En plus, je sais que tu es très proche de ta famille, donc ta vie un peu avant La Revue de Kenza.
Ouais.
Si je dépasse pas de bêtises, donc t'es d'origine marocaine. Ouais. Et t'as vécu quand même toute ta vie en France, à Paris.
Je suis née à Paris.
Est-ce que tu peux me parler un petit peu justement de comment c'était ton enfance? T'étais bonne à l'école? Comment c'était? que de l'école.
Non, mon enfance, une enfance très cool. Je suis née à Paris. J'ai grandi à Paris. Je n'ai jamais quitté Paris. J'ai des parents qui ont divorcé par contre très tôt, j'avais 3-4 ans, donc autant te dire que je me souviens pas vraiment de moments passés avec mes deux parents, mais j'ai vécu avec ma mère du coup la plupart du temps, mais mon père était très très présent parce qu'il habitait à Paris, que voilà, il s'était mis au point un week-end sur deux, tous les mercredis avec papa, machin. Enfin, un truc très classique finalement, dans une ville comme Paris. Du coup, j'ai un frère qui a un an de moins que moi. On a vraiment grandi ensemble pour le coup. On a tout fait. C'est mon meilleur ami. Enfin, tout le monde dit qu'on est faux jumeaux parce que physiquement on se ressemble beaucoup, qu'on a un an d'écart et qu'on est vraiment tout le temps fourrés ensemble. À tel point qu'à un moment j'ai redoublé une classe et j'ai demandé au proviseur si on pouvait se retrouver dans la même classe. Tu vois, et on s'est retrouvés.
Il t'a dit oui.
Ah bah ouais.
Trop cool.
Ah ouais. Hein. Il a dit on va faire un test et on va voir si ça fonctionne. Ça a fonctionné pendant 2 ans. Et puis finalement c'est mon frère qui a redoublé ensuite. Donc on s'est perdu à ce moment-là, mais voilà, donc très cool. Que te dire d'autre?
Et du coup, sur l'école, justement, t'étais plutôt style première de classe ou plutôt élève? C'était quoi, en fait? T'étais très extravertie?
Ouais, en fait, moi, c'est assez terrible. Enfin, c'est terrible parce que j'en garde un souvenir un peu amer. L'école, j'adorais ça, mais j'adorais ça pas forcément du coup pour les cours que j'apprenais, mais j'adorais ça parce que j'ai toujours été très populaire et j'ai toujours eu plein de potes. Donc j'adorais, mais c'est vrai, je te jure. C'était genre, tu sais, à l'école, chacun a son rôle.
Ouais, bien sûr.
Tu vas avoir la grosse tête, tu vas avoir celui qui met le bordel un peu partout, tu vas avoir la fille un peu populaire, machin. Et moi, j'étais la fille populaire, pote avec tout le monde, aussi bien avec les plus jeunes qu'avec les classes plus vieilles, tu vois. Et j'adorais ça parce que j'arrivais dans ma petite cour, que je faisais la pépette, que je m'entendais avec tout le monde. Les profs m'adoraient. J'étais hyper studieuse. J'étais vraiment super sérieuse à l'école. Je travaillais comme une dingue, vraiment. Mais par contre, je fais partie des gens qui travaillait et qui n'obtenait pas les meilleures notes. Et ça, c'était horrible.
Ouais, c'est frustrant, c'est clair.
Parce que mon frère était celui qui ne travaillait pas et qui obtenait les meilleures notes, tu vois, haut la main. Donc, pas de rivalité entre nous. Heureusement, ça ne s'est jamais installé. Mes parents ont fait un bon job. Mon frère est surdoué, hein. Il a été littéralement détecté surdoué. Il a fait tous les tests et tout. Moi, j'étais pas du tout la surdouée, mais j'étais la grosse bosseuse, quoi.
Et du coup, en fait, après cette enfance un peu normale, comme tu dis, et un peu l'école qui est pas si simple, etc., tu savais quand même ce que tu voulais faire dans la vie à l'époque? Tu t'intéressais déjà à la mode ou pas du tout? Quand t'étais petite, finalement, tu sais un peu ce que tu voulais faire, tu te rappelles?
Je savais qu'elle allait avoir un lien avec la mode. Ça, j'en étais sûre. J'en étais sûre parce que mes parents sont dans l'image. Mon père est producteur dans la musique, donc dans les clips vidéo. Ma mère était agente photographe. Donc, on a toujours eu un rapport à l'image, à la mode et à la publicité dans ma famille très fort. C'est-à-dire que, tu vois, on n'était pas une famille très tradie. C'est-à-dire qu'à table, on parlait de la dernière campagne de telle marque ou de dernier édito dans tel magazine. Donc déjà, tu vois, à 15 ans, mes frères, moi, etc., on était rodés sur qui étaient les photographes, qui étaient les maquilleurs, qui étaient les coiffeurs. Ça paraît un peu superficiel comme ça, mais c'est un monde à part entière et qui est passionnant. Qui est passionnant quand t'aimes vraiment l'image. Et mon père, c'était la musique. Donc, je savais qu'elle allait avoir quelque chose de lié à la mode parce que la mode, je suis un peu tombée dedans quand j'étais toute petite et c'est quelque chose qui m'a été souvent reproché d'ailleurs parce que je me sapais très vite, très tôt et j'étais regardée d'un œil parfois bizarre parce que je m'habillais en friperie quand j'étais encore adolescente, j'avais des styles un peu improbables. Aujourd'hui, je suis très casuelle dans ma façon de m'habiller et de me présenter, mais quand j'étais jeune, j'avais vraiment besoin de m'affirmer à travers ça et je savais qu'elle allait avoir un rapport à la mode, maintenant lequel, je ne savais pas.
D'accord. Et du coup, en fait, quand tu passes ton bac juste après ça, tu commences à faire des études. C'était dans quel domaine?
Alors là, compliqué parce que je passe mon bac, je ne sais absolument pas ce que j'ai envie de faire. Mes parents m'encouragent à partir aux États-Unis ou dans n'importe quel pays. Ils me disent, écoute, pars, prends une année sabbatique, réfléchis, t'as tout ton temps maintenant que t'as ton bac, te prends pas la tête. Les parents les plus cool du monde quand même.
J'avoue.
moi, un peu flippée, un peu non, je me sens pas de partir seule. Je veux faire comme tous les potes, je me lance dans une fac avec en LEA anglais-italien à la Sorbonne. Pas très intéressant.
Sans raison, parce que t'aimais bien un peu, mais pas...
Non, mais j'étais bonne en langue, en fait. J'étais hyper bonne en langue et en français. Donc, je me suis dit, naturellement, ça me servira à quelque chose. J'apprends l'anglais, j'apprends l'italien, parce que c'était ma LV1, ma LV2. Et en fin de compte, je suis restée 2 semaines à la fac. Parce que, en fait, la fac, je l'ai vue comme une jungle. Moi, je sortais d'une école privée Tu vois, j'étais en boîte à bac, hein, pour te dire. Parce que moi, je voulais arrêter l'école à 16 ans à la base. Mmh. Et que ma mère m'a forcée, m'a dit, tu ne sortiras pas du système scolaire avant d'avoir eu ton bac. Elle m'a prise, elle m'a mis en boîte à bac. Donc, j'ai été fliquée comme jamais en boîte à bac. J'ai eu mon bac, hein, au final.
Donc, ouais, donc ça a marché.
Résultat, ça a marché. Et quand tu sors d'une boîte à bac où on est peu d'élèves dans une classe et on est vraiment, enfin, tout le monde se connaît, etc., mmh. où tu te retrouves dans une fac, tu connais les amphis. Moi, ouais, je me suis retrouvée, tu arrives, tu te retrouves assis sur un escalier.
Tu connais personne, c'est hyper anonyme en plus.
C'était blindé et puis les cours me fascinaient pas, en fait. Mmh. M'intéressaient pas forcément. Donc, au bout de 2 semaines, bah, je suis allée voir mes parents en disant, bah, je crois qu'en fait, j'aime pas et je vais arrêter parce que ça sert à rien. Donc, j'ai arrêté.
Alors, est-ce que tu peux me raconter cette conversation? Parce que quand même, quand tu t'es jeune, enfin, je sais que les parents sont très souvent assez inquiets quand même de l'avenir de leurs enfants et tu te dis, aller voir mes parents pour leur dire je vais arrêter mes études et ensuite ben, je vais essayer de trouver un boulot parce que je crois que c'est ce que tu as fait.
Ouais, pas vraiment, j'ai refait une école juste derrière.
D'accord, ben, tu vas me raconter ça. Mais qu'est-ce que tu leur dis et comment ça s'est passé et comment ils l'ont pris?
Mais en fait, je pense qu'ils s'y attendaient. D'accord. Parce qu'eux m'encourageaient à partir après mon bac en me disant tu ne sais pas ce que tu veux faire, va te prendre une année, 2 ans sabbatiques, va apprendre une langue sur le terrain, tu vois, déploie tes ailes, quoi. C'était moi qui voulais rester dans leur jupon et qui n'étais vraiment pas prête à partir. J'avais mes potes, ma vie, enfin, je voulais pas. Et non, et du coup. Mais hyper cool, mes parents. En fait, ils avaient hyper confiance en moi parce que j'ai toujours fait preuve de sérieux, tu vois. Mmh. J'étais très sérieuse à l'école. Tu vois, je m'en suis toujours sortie avec la moyenne, etc. Mais je bossais. Donc, ils savaient que j'étais pas ce genre de personne qui allait faire n'importe quoi de son... Mais vraiment, vraiment, ils m'ont fait confiance et je crois que c'est essentiel. Ils m'ont fait confiance et ils m'ont dit, bah écoute, bah voilà, ton année sabbatique, du coup, tu la prends maintenant. Par contre, tu vas bosser. Donc, j'ai fait du babysitting pendant 1 an. J'ai tous les soirs, je suis allée chercher des petites filles à l'école que j'ai ramenées chez elles, à qui j'ai fait à manger, à qui j'ai fait prendre des douches, etc. Et puis tous les week-ends, j'étais vendeuse dans un magasin. Ça me permettait de gagner des sous et surtout de développer des choses que je connaissais pas chez moi parce que mine de rien, j'avais jamais gardé des enfants de ma vie à part mes frères et sœurs. Mmh. C'était une expérience incroyable, vraiment.
C'est vrai.
Ouais, j'ai intégré une nouvelle famille. Enfin, c'était génial, quoi.
Et au niveau de la vente, du coup, c'était dans le milieu de la mode, j'imagine.
Ouais, c'était dans un petit magasin à côté de chez moi.
Et donc, t'as continué à penser que la mode, quand même, était quelque chose à cette époque-là qui t'intéressait vraiment et que t'avais envie de...
Mais je savais que je voulais pas faire de vente. Hein. J'aimais pas du tout faire ça. D'accord. Je le faisais pour gagner des sous, histoire de m'occuper le week-end, etc., qu'il fallait que je fasse quelque chose. Mais la vente en soi, bon, mais c'était dans les fringues, oui.
Et le plan, alors après, cette année sabbatique, c'était quoi?
Eh bah, ben... De là, je me suis ouverte à d'autres voies et je me suis intéressée aux écoles de journalisme.
D'accord.
Et je me suis dit, il y a un truc à faire parce que j'adore la mode et j'adore écrire, j'adore échanger, j'adore communiquer. Enfin, tout était fait pour que je me dirige vers une école de journalisme. Chose que j'ai faite, j'ai passé un concours et je suis rentrée dans une école qui s'appelle l'ITEM. Ça a changé de nom, je crois. Ça s'appelle l'IEJ, je crois. Je ne sais plus comment ça s'appelle.
Dans les notes, t'inquiète
ça
pas.
A changé de nom. Uh-huh. Je suis entrée dans cette école de journalisme. C'était génial.
Ah,
j'ai adoré, j'ai étudié la radio, j'ai étudié la télé, j'ai étudié le journalisme sportif, tout. Par contre, je suis partie au bout de 6 mois. Ouais, la fille ne sait pas ce qu'elle veut faire, quoi. Ouais.
Non, mais c'est pas ça. Et alors, pourquoi t'es partie?
Et en plus, j'étais bonne à l'école.
Ouais.
Vraiment, j'avais
l'air. T'avais l'air de bien aimer.
Ouais, j'aimais bien. Je m'étais fait trop de potes. C'était génial. J'étais sûre de ma voix. J'étais sûre de la voie dans laquelle je me dirigeais. Mais en fait, je suis entrée en stage dans un magazine. Mm-hmm. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais j'ai plus envie d'être à l'école, en fait. Mmh. Je crois qu'en fait, tu sais, j'ai eu ce contre-coup. Je suis allée tellement loin, entre guillemets, en obtenant mon bac. C'était pas si évident pour moi parce que j'étais pas la personne la plus scolaire de base. Mmh. Et en fait, je crois que j'ai eu un contre-coup, mais deux années plus tard, et je me suis dit, mais en fait, non, t'as juste plus envie d'aller à l'école. T'as fait le job, t'as eu ton bac. Maintenant, tu peux reprendre tes études quand tu veux. Et en fait, en goûtant à cette espèce de liberté, en étant stagiaire pour un magazine de mode, et je me suis dit, c'est cool la vie active. C'est quand même cool d'être avec des gens un peu plus âgés et d'apprendre différemment qu'entre quatre murs à l'école. Quoi.
Et donc, ce stage, c'était pour quel magazine?
Le magazine Numéro.
D'accord, super cool. Et donc, tu fais un stage, t'étais quoi, styliste? Enfin,
alors,
tu touchais
c'était
un
stage en plus pendant les vacances scolaires. Autant te dire que c'était vraiment pas un stage hyper instructif. Donc, je traînais au milieu de tout le monde, mais je kiffais. Je kiffais le mood, j'étais en stylisme, je traînais avec tous les gens qui avaient dans la rédac. J'avais pas de vraies tâches, j'avais des petites tâches. Un coup c'était va faire ci, un coup va faire ça. Ça a pas duré très longtemps, hein. C'était juste 2 semaines, quelque chose comme ça,
d'accord.
2 ou 3 semaines. Mais je me suis dit c'est cool le matin de sortir de chez soi et d'aller travailler et faire quelque chose qu'on aime, tu vois. Et je sais pas, j'ai eu une espèce d'impulsion à ce moment-là et donc je suis retournée voir mes parents.
Deuxième conversation.
Ouais. Et là,
un peu
par
moins,
contre,
un peu moins facile.
Un peu plus tendu. Mon père, hyper cool. Parce que mon père est vachement plus pisse que ma mère par rapport aux études. Mon père a arrêté l'école à 15 ans. D'accord. Mon père était dyslexique et dysorthographique, il n'y avait pas de système scolaire pour lui. Et lui, il a monté sa première boîte à 20 ans. Il a monté une agence de pub à 20 ans. Enfin, voilà. Donc, lui, c'est, il a son parcours. Et mon père avait tendance à penser que je pourrais reproduire le même schéma. Sauf que c'était plus les mêmes années.
Ouais.
Et ma mère lui a dit, c'est pas possible. Ça se passera pas comme ça. C'est pas aussi simple. Mmh. Il y a une crise qu'il n'y avait pas avant. Et ma mère m'a tout simplement dit, bah, écoute, tu vas arrêter, il n'y a pas de problème. Par contre, t'es pas fini, t'es pas formé. Ma mère est chef d'entreprise, donc elle avait deux boîtes à l'époque. Elle était agent photo et elle faisait de la production de photos de mode. Elle m'a dit, bah, tu viens au sein de la boîte et tu vas tout apprendre. Tu vas rester là le temps qu'il faudra et tu vas apprendre la compta, tu vas apprendre la gestion des photographes, tu vas apprendre à manier un site web, tu vas, voilà. Et c'est comme
ce
ça
que. Fait.
Ouais. Et franchement, c'était le meilleur enseignement que j'ai pu avoir.
Ah, ben, bah ça, j'ai l'impression, quoi. Ça a l'air absolument génial. Et t'es resté combien de temps, du
deux
coup,
ans.
Dans cette boîte? Deux ans.
J'ai bossé deux ans auprès de ma mère. Alors, tout le monde va te dire, oh, c'est facile de bosser avec ses parents. C'est le pire truc du monde.
Mmh.
C'est, les parents, ce sont les personnes les plus exigeantes avec vous.
Bien sûr.
Ils ne vous lâchent pas. Ma mère, c'est quelqu'un d'hyper dur. Bon, j'ai pas une enfance difficile, mais c'est quelqu'un de relativement
oui,
dure et exigeante.
Potentiel aussi, elle sait que,
ouais.
que tu peux te pousser. Donc,
Et franchement, je la remercierai jamais assez parce que je sais que si aujourd'hui j'ai cette fibre entrepreneuriale, c'est uniquement grâce à elle. J'allais dire à cause, tu vois, lapsus. C'est grâce à elle. Je me souviens, j'ai des souvenirs, je détestais la compta, je détestais les maths, j'étais nulle en maths. Enfin, c'était vraiment genre ma bête noire. Et elle faisait exprès, du coup, de me mettre dans le bureau d'à côté et pour faire les notes de frais. Et la compta, c'était horrible. Mais aujourd'hui, je gère mon administration comme personne.
Ouais, bien sûr, tu le
vois.
Fais toute seule,
et ça,
quoi.
C'est uniquement grâce à ça. C'est pas l'école de journalisme, c'est pas la fac, c'est le terrain.
Ouais, bien sûr. Et puis tu sais aussi pourquoi tu le fais quand tu travailles dans une entreprise qui est celle de ta mère.
Ouais.
Et en plus, c'est quelque chose de concret. C'est ce que
ouais.
tu dis. C'est pas juste on te demande de faire un exercice, quoi. Tu le fais parce que c'est la réalité.
Oui.
T'apprends tellement plus. Enfin, je trouve que c'est une super bonne école de la vie. Et donc c'est à cette période-là, pendant que tu travailles avec ta mère, que tu lances ton blog.
Ouais. Alors, ce qui se passe, c'est que je lance mon blog parce que je me rends compte que l'écriture me manque, ce que je faisais en journalisme me manque. Donc, je me dis, bon, bah, je vais lancer un petit blog. Je vais rien en faire. C'est juste pour moi, pour rédiger mes articles. Si vous remontez dans les archives de mon blog en 2008, je parle même pas à la première personne. Je parle de mode, je parle des collaborations entre designers qui sont faites, etc. Je me mets pas du tout en avant. Je commence à rédiger ce petit blog et je me dis, je sais pas pourquoi je me dis ça, alors que franchement, je suis payée pour le boulot que je fais chez ma mère. Ça va, j'ai une situation. Enfin, aujourd'hui, j'aurais pu reprendre sa boîte, hein, clairement, tu vois. Je l'ai pas reprise, mais tout était fait pour que ça se passe bien pour moi, sans difficulté. Et je sais pas pourquoi, en fait, en lançant ce blog, je me dis, bah, je vais contacter les rédacs de magazines. Je vais voir si je peux piger pour les magazines, à côté, comme ça. Ça m'occupera. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, en fait, j'ai fait un petit mail. Tu sais, je suis allée chercher la dernière page, tu sais, avec tous les contacts. Le premier ou dernière page, je sais plus.
C'est la dernière page.
Je lis plus assez la presse papier, c'est horrible. Donc je recueille tous les mails et j'ai quelques retours de mails, du coup, qui me disent, bah, ok, bienvenue, on peut se voir, etc. Et donc je débarque dans ces rédacs de magazines, notamment chez Glamour. À l'époque, c'était Aurore Leblanc, qui était rédactrice en chef.
D'accord.
Qui me dit, écoute, t'inquiète pas, moi non plus, mon école, je suis pas allée jusqu'au bout, mon diplôme, je l'ai pas eu, enfin, je sais pas, elle me sort un discours comme ça. Elle me dit, donc, c'est pas parce que t'as pas ton diplôme de journaliste que tu sais pas écrire et que tu peux pas le faire. Et là, en fait, tout se désacralise, je me dis, mais trop bien.
Mais génial,
c'est
conseil.
C'est génial,
quoi.
Non, mais trop sympa, la nana.
Ça a été un peu ton, pas ton mentor, mais t'as gardé contact
avec
elle.
Oui, on est en contact parce qu'aujourd'hui, bah, elle bosse pour une marque, etc. Mais, ouais, c'est la première personne, entre guillemets, hors parents, hors maman, du coup, qui m'a fait bosser et qui a accepté de me recevoir uniquement parce que bah, j'avais un lien sur Internet qui traînait, que j'avais envoyé en disant « Si vous voulez savoir comment j'écris et de quelle manière je rédige un article, vous pouvez vous rendre sur mon blog.
»
Et les blogs, il y en avait très, très peu à l'époque. Il y en avait très, très peu. Donc, je faisais partie des rares et je pense que ça avait dû l'interpeller, quoi.
Ouais, c'est sûr.
Ouais.
Et justement, à l'époque, quand tu lances ton blog, il y avait d'autres blogs, peut-être US ou français, que tu regardais et qui t'ont inspiré. Enfin, comment même t'as eu l'idée, finalement?
Bah, je consultais des blogs. Je consultais beaucoup Garance Doré.
D'accord.
À l'époque, c'était beaucoup d'illustrations. Mais elle rédigeait quand même. Et je trouvais ça trop cool.
Ouais.
Il y avait Café Mode, Géraldine Dormois de l'Express, que je consultais à fond aussi. Il y avait Punky Bee, Géraldine Griset. Il y avait des blogs US, il y en avait pas mal, mais surtout des blogs street style, genre Face Hunter, que je consultais vachement aussi. Attends, j'essaie de me souvenir. Fashion Toast à l'époque. Qui d'autre? Carla's Closet.
Ouais. Mais c'est vrai qu'en plus, à l'époque, si je me trompe pas, il n'y avait pas tant de blogs mode français avec un côté plus street et plus quand même... Enfin, je peux me tromper, mais
oui.
c'était quand même plutôt soit sur la mode de façon générale, soit ouais. Un peu plus girly, on va dire.
Ouais,
et du coup, est-ce que tout de suite, en fait, où c'était juste ta personnalité et ton style, tu t'es dit, moi, je vais aller quand même sur un axe un peu streetwear, ou en fait, ça s'est fait juste
non,
naturellement?
Pas du tout.
Il n'y a pas de stratégie
Aucune. Quand j'ai créé mon blog, j'étais dans ma chambre, elle était rose, je m'en souviens par cœur, mal rangée. Non, je me souviens. Et je me souviens, j'ai créé mon blog, je rédigeais du coup des articles complètement impersonnel où je parlais de collab entre des marques, etc. Et un jour, je me suis dit, ah bah tiens, je rentre de vacances, j'ai plein de photos à partager avec mes potes. Plutôt que de m'embêter à les envoyer par mail, je vais les poster sur mon blog, ils vont les récupérer. De toute façon, personne ne consulte mon blog à part mes potes. Donc voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai posté cette série de photos? Ça a été la folie. On avait fait des vacances à Saint-Tropez, donc... petite série photo sympa entre potes à Saint-Tropez, etc. T'as 20 ans, tu fais la folle, c'est génial. Et je rentre de vacances, je poste ces photos et là, des commentaires, mais incroyable. À l'époque, il y avait un engouement très important pour les blogs. Des commentaires dans tous les sens et des gens qui me disent, mais mets-toi en avant, on a envie d'en savoir plus, du coup, ta vie a l'air cool. Et je me suis dit, mais grave, attends, c'est génial, mais c'est hyper excitant, t'imagines?
Ouais,
t'as 20 ans et on te demande d'en savoir plus sur toi. Et tu te dis, mais ces gens, je les connais pas, je les verrai sûrement jamais. Il y avait beaucoup de pays étrangers, beaucoup de pays type Belgique, enfin, francophone, tu vois, mais Suisse. Il y avait beaucoup de gens des États-Unis. Et de là est né mon premier poste, du coup, au mois de septembre, retour de vacances, septembre 2008, alors que ça avait été en juillet, où je me suis mise en avant, mais sans stratégie, sans stratégie du tout. Et aujourd'hui, il y a toujours pas vraiment de stratégie, j'ai envie de te dire, mais bon, si, c'est plus rodé quand même, mais,
bien sûr.
Mais bon, voilà.
Et alors, tu continues à travailler en même temps chez ta mère, mais tu postes très régulièrement comme ça des articles où tu te mets donc de plus en plus en avant, enfin, pas au sens où tu te mets en avant, mais au sens où juste on te voit avec tes fringues. Est-ce qu'il y a eu un moment dont tu te rappelles où tu sens que ça a pris une nouvelle tournure et où tu sens que ça s'est ça a décollé quoi? Est-ce que tu peux m'en parler?
Je m'en souviens complètement. Et d'ailleurs, j'associe Lorraine Bastide, qui a un podcast génial d'ailleurs à ce moment-là, qui m'avait contactée à l'époque, donc en 2009 ou 10, et qui me dit voilà, on fait tout un reportage dans le L, journaliste OL à l'époque. On fait un reportage dans le L, on aimerait faire une double page de toi, etc., et d'autres personnes. Moi, je comprenais pas, je me dis, ah bon? Mais moi, pourquoi? J'avais eu que des petits encarts, tu sais, jusqu'à présent, genre dans le 20 minutes, des petites choses, genre, oh, un blog est né, voilà ce qu'est le blog, le concept du blog. Mais là, cette double page, je me dis, ah ouais, quand même, genre le L, je le lis tout le temps. Ma mère le lit, ma grand-mère le lit. Et je me dis, il y a un truc, tu vois.
Ah, le monument.
C'est que, oui, et puis, c'est une cible qui est différente de celle que tu as sur ton blog. C'est déjà des dames. Enfin, tu vois, c'est. Enfin, moi, j'associais ça pour moi à la parisienne parce que c'était ma mère qui lisait ça. C'était une cible particulière. Et donc, j'ai senti vraiment une impulsion à ce moment-là et j'ai compris que mon blog était peut-être plus populaire que je ne le croyais.
Non, mais c'est incroyable, quoi. Et du coup, juste une fois que tu as vécu ça, même l'audience, elle a augmenté. Enfin, tu as senti quand même vraiment un impact? Toi, psychologiquement, quoi.
Non, c'est moi psychologiquement, mais j'ai senti un petit impact quand même. Tu vois, il y a des moments, deux, trois moments clés comme ça, notamment la première fois que je suis allée au festival de Coachella en 2010, quand c'était pas aussi populaire, j'y suis allée en perso. Je faisais un live tous les jours sur Twitter avec les tweetcams, tu sais.
À l'époque,
ça n'existe plus. Je débriefais de ma journée tous les jours avec ma communauté française, mais qui grandissait du coup au fur et à mesure que le festival se déroulait parce que je relayais quelque chose qui était vraiment pas aussi populaire avec des artistes de dingue, des paysages de dingue. Il y avait pas Instagram à l'époque, je te parle de ça, il y avait que mon blog, hein. Donc c'était je mettais de la vidéo sur YouTube, c'était le terme vlog n'existait même pas. Et c'était des vidéos qui n'étaient pas montées, que je postais tous les jours, tu vois.
Incroyable.
Mais ouais, je sais pas, et c'était comme ça, il y avait pas de stratégie, et c'était cool, quoi.
t'as su quand même identifier plein d'opportunités comme ça. Je voulais te parler d'autre chose qui m'intéresse énormément aussi, c'est le fait que tu travailles en famille, donc tu m'en as parlé un petit peu brièvement avec ta maman, mais tu travailles aussi, je crois, avec ton frère.
Ouais.
Et un petit peu avec ton copain Mathieu, même si je sais qu'il est free et que vous ne travaillez pas ensemble au sens où vous n'êtes pas associés. Pourquoi est-ce que tu fais ce choix de travailler en famille et qu'est-ce que ça t'apporte? C'est une question en fait que j'ai beaucoup d'auditeurs qui me posent, qui se demandent en fait, notamment travailler en couple, travailler avec les frères, les sœurs, etc. Comment ça se passe? Quels sont un peu les pièges? Quels sont les trucs qui sont géniaux? Est-ce que tu peux m'en parler, m'expliquer un peu comment ça t'est venu, enfin pourquoi c'est arrivé? Et puis qu'est-ce que tu trouves difficile? Qu'est-ce que tu trouves bien au contraire?
Ça m'est tombé dessus en fait plus que j'ai provoqué les choses. Je n'aurais jamais pensé bosser avec mon frère à un moment parce que mon frère c'est mon frère et que voilà. J'y ai pas pensé, mais ce qui s'est passé c'est que mon frère en fait lui a fait une école de business management à Londres. Encore une fois, je le rappelle, c'est la tête de la famille. Voilà, c'est son rôle à lui. Et moi, si tu veux, tout ce qui m'est arrivé avec mon blog, etc., ça m'est un peu tombé dessus et j'ai su rebondir là-dessus. Mais de base, j'ai pas fait d'école de commerce. Je sais pas comment dire ça de manière correcte. J'étais pas censée être celle qui réussit dans cette famille initialement. C'était pas, tu sais, moi, je crois vachement à, comment dire, au karma et aux rôles qui te sont attribués quand tu nais. Enfin, après, ça, c'est mes histoires, tu vois, mais c'était pas ma destinée. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pris cette voie. Et mon frère, à l'époque, en fait, où j'ai eu besoin de lui, c'était à un moment où je me séparais de mes anciens agents. Et je lui ai dit, putain, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, pour mes contrats, etc. Parce que je maîtrise pas tout. J'ai besoin d'aide. Tu veux bien t'en occuper de manière à ce que je puisse rebondir? Il m'a dit OK. Et il a commencé à se pencher dessus, à regarder mes contrats, etc. Et en fait, j'ai senti tout de suite qu'on pouvait faire quelque chose ensemble là-dessus. Et à terme, je lui ai dit, mais s'il te plaît, genre, viens, on continue. Monte ta boîte autour de ça et fais-le, tu vois. Parce que lui, il bossait dans un truc qui avait rien à voir. D'accord. Il bossait dans un domaine naval en Hollande, dans les énergies nucléaires, quoi. Le truc qui a rien à voir. Effectivement, rien à voir. Et du coup, il a commencé à m'aider et monter sa boîte, du coup, pour pouvoir facturer quand je le rémunérais sur les contrats qu'il dealait pour moi, etc. Et il l'a professionnalisé réellement. Et voilà comment ça s'est passé. Maintenant, il a monté sa boîte qui s'appelle Influence.
Et qui gère d'autres blogs que toi ou d'autres influenceurs?
Alors, d'accord. On n'est pas en exclu, c'est-à-dire qu'il a signé aucun blogueur en exclu. Diego, il fait surtout de la stratégie digitale pour les marques, d'accord. Tu vois. Donc, les marques de luxe, surtout. Donc, il est contacté par beaucoup de marques, il s'en occupe. Et puis, quand moi ou d'autres blogueurs de qui il est proche, amicalement ou professionnellement, ont besoin d'aide pour un contrat, il s'en occupe.
D'accord.
Voilà. Donc, ça s'est fait comme ça, en fait, par hasard, et ça marche trop bien.
Et ça marche trop bien. Et alors, pourquoi est-ce que ça marche trop bien? Et à l'inverse, qu'est-ce que tu sens quand même être un peu difficile, si c'est pas trop indiscret? Quel conseil, tu vois, tu pourrais donner à quelqu'un qui pense s'associer avec son frère, avec son, je sais pas, un parent, un cousin, peu importe? Est-ce que pour toi, c'est un peu différent de quand on s'associe avec quelqu'un qui n'a rien à voir, tu vois, familialement?
Oui, je pense. Moi, je me suis jamais associée dans la vie. Et je suis toujours associée à personne, mais d'une certaine manière, je suis associée à mon frère, mais je pense que quand on s'associe à quelqu'un de sa famille, il faut être sûr que les bases soient ultra solides. Diego et moi, on n'a jamais été en rivalité. Mmh. Avec un an d'écart, c'était pas évident. On aurait pu l'être.
C'est clair.
Tu vois, bon, c'est un garçon, je suis une fille, mais on aurait pu l'être d'une certaine manière. On a été dans la même classe, etc. Mais je pense que mes parents ont fait un job franchement brillant dans notre éducation. Qu'on a une relation qui est tellement saine en tant que frère et sœur, notre but, c'est de nous pousser vers le haut en permanence. Et ça, je crois que mon frère le ressent, que je le ressens. On n'a pas besoin de se dire les choses, mais dès que je peux le mettre en avant et le porter vers le haut, je le fais. Et c'est la même chose pour lui. Et je crois comprendre que parfois, dans des relations frère-sœur, il peut arriver qu'il y ait une forme de rivalité, tu vois. Mais on a eu de la chance, on a été éduqués vraiment avec tellement d'amour, voire trop de bienveillance de nos parents, je te jure, parce que on est particulier. Hein. Moi, mon père, c'est le vrai père juif qui m'a dit toute ma vie, t'es forte, t'es belle, tu vas réussir, t'es belle, t'es forte, tu vas réussir, tu vois.
C'est comme ça que ça marche.
Voilà, il l'a dit à mon frère, il me l'a dit, ma mère, pareil. Donc parfois peut-être un peu oppressant pour les gens les gens autour, effectivement, qui se disent, c'est quoi cette famille là où ils s'adorent tous, où les parents sont fans de leurs enfants. Mais je pense que ça a marché, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a pris confiance en nous. Mon frère est bien dans ses pompes, je suis bien dans les miennes, et on veut que le meilleur pour l'un et l'autre. Voilà.
Et du coup, c'est peut-être plus facile aussi de se dire les choses quand ça marche ou quand ça marche pas, parce que vous avez une relation qui est tellement saine et fluide que la communication est hyper simple.
Et ça marche, c'est ça le truc. Mmh. C'est qu'en plusieurs années, ça fait combien de temps qu'on bosse ensemble? Peut-être 4 ans. Ça marche, mais divinement bien. Parfois, il arrive effectivement qu'il y ait des incompréhensions, etc. Mais ça monte même pas dans les tours. Il y a même pas de soucis. Tu vois, on peut en parler au détour d'un déj de famille. On se met dans un coin. Le truc, il est, tu vois, débloqué en 5 minutes, quoi. Non, c'est cool.
Top. Je voulais te parler un petit peu aussi de l'avenir et du fait que bah, t'es sur le départ, en tout cas en France. Je trouve ça hyper intéressant parce que c'est pas facile déjà de partir de France quand comme toi en plus tu l'as dit, t'as un gros réseau ici, t'as ta famille, enfin t'as énormément d'affect en plus j'imagine en France. Et là donc t'as pris la décision de partir habiter aux US avec Mathieu, ton copain. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu pourquoi vous avez pris cette décision et aussi comment vous vous y prenez, parce que je pense que ça peut aider des personnes qui ne savent pas du tout comment faire.
Bien sûr. Alors, pourquoi on a choisi de partir? En fait, avant que je rencontre Mathieu, je pensais déjà à partir. Ça fait peut-être 10 ans que je me dis un jour, j'irai vivre aux États-Unis. Et j'ai toujours voulu vivre à New York. Mais je crois qu'il est trop tard. C'est-à-dire que j'ai laissé passer le bon moment de vivre à New York. Je pense que New York, c'est bien quand t'as 20 ans. Quand t'as 30 ans, enfin moi j'en ai 31 aujourd'hui, c'est un peu plus speed et c'est plus difficile quand tu penses à fonder une famille, etc. Mmh. C'est une ville qui coûte cher, c'est une ville, il faut beaucoup d'énergie, etc. Mmh. Los Angeles, pourquoi? Moi je connaissais un peu Los Angeles. Mathieu y avait déjà un peu vécu. Et quand j'ai rencontré Mathieu, il me disait, écoute, moi à terme, de toute façon, je sais que je retournerai tôt ou tard à Los Angeles, j'adore cette ville. Bon, ok, moi j'étais pas hyper fan de cette ville. Et un été, il me dit, écoute, viens, on part, on fait le test. On va voir ce que c'est que Los Angeles ensemble, etc. C'était il y a 2 ans. J'y vais un peu à contre-cœur parce que je suis pas fan de cette ville. Je me dis ok, on y va. Et en fin de compte, je passe des vacances géniales. Je passe des vacances géniales parce que j'ai abordé Los Angeles d'une autre manière. Mathieu, c'était quelqu'un qui connaissait cette ville. C'était quelqu'un qui avait des adresses, etc. Alors quand j'étais allée précédemment, j'y allais en touriste. Je flânais. Alors que c'est pas une ville où tu peux flâner. C'est une ville qui est beaucoup trop grande.
Tu peux même pas marcher, donc.
Non. Et j'ai adoré cette expérience-là. Mais on parlait pas d'y vivre. On parlait juste de me réconcilier avec cette ville. Et le temps passe, notre couple se porte bien, nos boulots se passent bien, etc. Mais lui comme moi, on sent qu'il y a un truc qui nous manque. C'est-à-dire qu'on fait le tour, tu vois. On commence à faire le tour et on a besoin d'un nouvel environnement, en fait, pour...
Ça faisait combien de temps, déjà, à ce moment-là, que le blog existait? Ça faisait au moins...
7-8 ans,
ouais. 7 ans, quoi, quelque chose comme ça.
Non, non, tu vois, mais on sent qu'on a besoin de, je sais pas, de quelque chose de nouveau. Mmh. Donc, on en parle et on se rend compte que on a envie d'une expérience tous les deux à l'étranger, ensemble. Los Angeles vient naturellement à nos oreilles et on se dit, du coup, il y a quelques mois, partons à Los Angeles, 2 mois et demi... pour tester la vie sur place. Mais partons comme si on y bossait, c'est-à-dire qu'on part pas en vacances, on se fait pas la Dolce Vita, on se lève tous les matins, on bosse. Enfin, on a une vraie routine, quoi.
Ouais, ça c'est génial. En fait, vous êtes vraiment mis en tant que professionnel, en fait. Parce que c'est vrai que souvent les gens, quand ils pensent quitter la France, se font un peu comme vous avez fait un premier test, tu vois, où ils partent en voyage, où ils font un peu, ils visitent, etc. Mais en fait, ils vont pas travailler. Je pense que c'est très, très différent et c'est génial que vous ayez fait ce test-là.
Ça a très bien fonctionné. On est parti du mois de janvier au mois de mars 2018. Et honnêtement, ça fait partie des 2 plus beaux mois de ma vie où je me suis reconnectée avec moi-même, tu vois. Parce que, comme je t'ai dit, je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris. Et en fait, ma vie défile à une vitesse folle. J'ai une vie qui est un peu hors du commun, j'en ai conscience. Je passe ma vie dans les avions. Je passe ma vie à travailler. Je m'en plains pas, j'adore ce rythme de vie et je pourrais pas m'en passer. Mais mine de rien, tout défile devant moi et j'ai pas le temps de m'arrêter et de me dire « Hey, mais de quoi t'as vraiment envie ?» Tu vois ? Parce que c'est du non-stop, c'est du non-stop, c'est du non-stop. Et là, pendant ces 2 mois-là, forcément, le rythme était un peu plus slow. J'ai bossé. Parce que les marques ont pu me suivre en me faisant bosser à distance, shooter une série, etc. Bon, elles me font confiance, donc j'ai pu le faire de mon côté avec mes photographes, avec Mathieu, avec d'autres maquilleurs là-bas, etc. Mais je sais pas, je me suis dit en fait, je crois que ça y est, je crois que vraiment j'ai besoin, et même pour mon travail et surtout à titre perso, j'ai besoin d'un nouvel environnement autre que celui de Paris. Et donc voilà, ça s'est hyper bien passé. Je sais même pas, je pourrais t'en parler des heures, hein, tellement c'était génial.
Je trouve ça hyper intéressant parce que moi, je suis convaincue que pour être créatif, t'as besoin aussi d'un vent de nouveauté, t'as besoin de voir du changement. Et en fait, toi, t'as fait tellement de choses pendant 7 ans. Donc, on peut se dire, t'as en permanence, tu vois, des inputs créatifs qui font que tu peux, toi aussi, être créative à ton tour. Mais il y a un moment où j'imagine, quand même, ça tourne un petit peu en rond parce que tu connais les marques, tu connais les gens, etc. Et partir comme ça, vivre une nouvelle aventure, c'est vraiment une aventure. Ouais. J'imagine que ça t'apporte, un nouvel élan qui doit être hyper passionnant et je suis sûre que ça va faire un bien fou aussi à ton travail, quoi.
Ah ouais, ça j'en ai conscience, mais c'est un job Tenir un blog et alimenter des réseaux sociaux, c'est viscéral. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu fais ça vraiment avec passion, hein, je te parle pas de faire un post tous les 4 ans. Non, quand tu fais, comme moi ou comme d'autres anciennes le faisons, ou même d'autres nouvelles blogueuses, enfin, c'est quelque chose vraiment qui est viscéral. C'est-à-dire que tu
ça se sent en tout cas quand tu le dis.
Non, mais je sais pas comment t'expliquer, en fait. C'est tout ce que tu fais. Il y a toujours au fond de ta tête ta communauté qui est là. Tu vois, moi, partir en vacances sans wifi, ça n'existe pas. Et j'ai fait chier des ex avec ça en disant non, on part pas dans cette région, il n'y a pas de wifi. Au contraire, moi, j'ai besoin de partager mon expérience. Et tu sais, le mec regarde genre, mais t'es sérieuse? Tu veux pas lâcher ton téléphone? Si, je veux bien lâcher mon téléphone. Mais je culpabilise parce qu'il y a des gens qui attendent ce moment-là, des gens qui, eux, ne pourront peut-être jamais voir ce paysage-là, qui vont l'attendre à travers mes réseaux, tu vois. Et je me suis rendu compte en partant là-bas que ça permettait aussi à ma communauté de prendre l'air, en fait, d'une certaine manière. Donc c'est tout bénef, et pour moi, et pour ma communauté, et pour mon travail. Donc cool.
Trop bien.
Ouais.
Et s'il y a quand même des choses qui te font un peu peur avec ce départ?
Franchement, non. C'est bizarre parce que, tu sais, quand j'étais là-bas, j'ai souvent pleuré. Hein. J'ai souvent pleuré parce que je disais à Mathieu... Putain, Mathieu. Alors, Mathieu, il est plus sauvage que moi. C'est-à-dire que lui, il est moins fille à papa que je ne le suis. Moi, j'ai besoin de mon frère à côté, de mes parents pas trop loin. Bon, pourtant, ils habitent tous à l'étranger. Mais tout le monde se réunit régulièrement à Paris. Je sais qu'on n'est pas trop loin. Mais tu vois, j'ai souvent pleuré en disant, Mathieu, mais si l'expérience au bout des 2 mois, elle s'avère naze, si finalement, j'aime pas Los Angeles, bah, toi, de un, je te brise ton rêve de t'y installer. Ça aura un impact sur notre couple. Et de deux, ça veut dire que je dois rester encore à Paris. Et où est-ce que je vais aller, tu vois? Et il me disait, mais t'inquiète pas, au pire, t'aimes pas Los Angeles, on ira ailleurs. Mec, trop sympa, quoi. On ira voir ailleurs, on ira faire 2 mois ailleurs, on pourra aller à Lisbonne, on pourra... Bon, en fin de compte, ça s'est hyper bien passé. Non, donc rien ne me fait peur, parce que j'ai... La distance me fait pas peur, en fait. Tout le monde me dit, ouais, Los Angeles, c'est hyper loin, c'est à 12 heures, etc. Mais quand tu relativises, 12 heures, c'est quoi dans une journée? Je prends l'avion à 8 heures du mat, je suis là à 20 heures. Tu vois, si vraiment non, ça va vrai. Pas. Et j'en ai parlé avec beaucoup d'amis à moi qui vivent sur place, qui étaient parisiens, qui ont quitté Paris pour s'y installer et tout reconstruire de A à Z, vraiment, qui ont lâché leur job pour se lancer dans une nouvelle carrière. Ils m'ont dit, mais tu sais, tu signes pas ad vitam. Quand tu viens t'installer, t'es pas bien, tu rentres au bout de 6 mois. Ouais, t'as fait tes démarches, ouais, t'as dépensé de l'argent pour l'immigration, etc. Mais tu t'en fous, tu vois, genre, au moins, tu l'auras fait, tu seras allé au bout de ton truc.
Ouais, pas de regrets.
Ouais, non.
Je voulais parler un petit peu plus d'un autre sujet qui est, je sais pas si c'est facile ou pas facile pour toi, mais qui est un peu d'échecs et d'erreurs et de choses où tu sens que t'as appris vraiment des enseignements qui t'ont un peu changé. Souvent, en fait, alors c'est vrai que t'as un succès incroyable avec ton blog, mais je sais que derrière les succès, il y a toujours quand même un moment ou des événements qui ont été difficiles. Est-ce que toi, t'as eu un moment comme ça un peu dur où t'as quelque chose que t'as vécu où tu sens que ça t'a vraiment appris quelque chose, un peu ta meilleure erreur, entre guillemets, ou ton plus bel échec, si je puis dire?
Ouais, il y a 2 moments forts comme ça qui m'ont tiré vers le haut, qui m'ont fait du mal, mais qui m'ont tiré vers le haut. Bah, des déceptions, forcément. Je vais essayer de pas rentrer dans les détails parce que je vais accabler personne, mais ouais, c'était par rapport à des expériences de relations humaines qui m'ont vachement déçue. En fait, j'ai compris que... En fait, le problème qui n'est pas vraiment un problème, c'est que c'est ce que je fais dans la vie, ce qui me permet de me nourrir et de payer mon loyer, c'est à la base une passion. C'est une passion qui est devenue un job. Je me suis pas levée un matin en me disant, ouais, je vais avoir un super business plan, je vais faire ça, etc. Ça s'est pas passé comme ça. Donc, moi, si tu veux, j'étais un peu comme un espèce de papillon, là, qui était en train de naître, tu vois, genre, je me suis entourée progressivement de personnes, de qui j'avais besoin à un moment, et qui sont venus vers moi, hein, je suis pas allée chercher, qui sont venus vers moi en me disant, t'inquiète, on va être là, on va t'aider, etc. Et en fin de compte, m'ont pas tant aidé que ça. C'est-à-dire que j'ai eu des déceptions dans le travail avec des personnes qui étaient censées être des personnes de confiance, qui, je pensais, étaient mes amis, mais en fait, n'étaient pas mes amis. C'était des gens juste qui faisaient du business. Et ça, je l'avais pas perçu. Alors que tout le monde me disait, fais gaffe, arrête d'être naïve. Moi, j'étais là, mais non, vous inquiétez pas, c'est cool. Et en fin de compte, si, de belles déceptions, c'est, mais bon, ça t'endurcit et ça, c'est voilà. Là, ça, c'est ma première déception. Enfin, non, c'était la deuxième déception. La première, c'est plus une leçon que je me suis donnée à moi-même par rapport à une. Parfois, t'as des gens qui peuvent être un peu mal intentionnés quand t'es un peu populaire sur un réseau, etc. Ouais, et qui vont se servir de toi d'une certaine manière et qui vont. ouais, se servir de toi et de ton impact et de ton influence pour s'élever. Et à un moment, bah, ça marche plus entre nous deux, entre les deux personnes qu'on est. Et cette personne va se servir de ses mêmes réseaux pour t'enfoncer, quoi, tu vois.
Ouais.
C'est des trucs un peu gamins, tu vois ce que je veux dire? Des trucs de jeunesse.
Ouais, bien sûr.
Ouais, voilà. Il aurait juste fallu que je me protège un peu plus. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus dure et à l'époque, j'étais un peu plus naïve, tu vois. Pour moi, c'était cool. Voilà.
J'allais te demander justement, du coup, honnêtement, la vie publique que t'as, ça doit être assez difficile, je peux l'imaginer. Et notamment parce que c'est vrai que ça doit être difficile de donner sa confiance à des personnes où parfois t'as le doute, tu vois. Tu te dis, est-ce qu'ils m'aiment pour ce que je fais ou est-ce qu'ils, etc.
Ouais.
Comment aujourd'hui, par rapport à ces deux moments un peu difficiles, quels sont un peu les enseignements, enfin qu'est-ce que tu appliques, tu vois, maintenant à ta vie, on va dire, tu dis que t'es un peu plus dur, mais ça veut dire qu'en fait tu donnes un peu moins facilement ton amitié ou
ouais.
En gros qu'est-ce que ça signifie?
Bah en gros ça signifie que j'étais une personne que je ne suis plus du tout et c'est ce qu'on m'a reproché d'ailleurs, c'est-à-dire que j'étais une personne très naïve, un peu dans la lune, etc. et je suis devenue cette personne tout sauf naïve, j'ai confiance en absolument personne. Ça, c'est un défaut que j'ai. Et c'est comme ça. Mais c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. C'est juste que, du coup, cette façon que j'ai eue de me protéger du jour au lendemain, mes amis, à un moment, ne m'ont plus reconnue. Ma famille, à un moment, ne m'a plus reconnue et m'a dit, mais t'es folle, en fait. T'es en train de vriller, quoi. Et il n'y a pas, tu vois, ce truc de je vrille parce que je vais dans des beaux hôtels ou parce que je mange au resto trop régulièrement, etc. Moi, c'était vraiment je vrille parce que j'ai tout le monde dans un radar, tu vois. Vraiment, vraiment. Et ça, c'est un truc sur lequel je bosse vachement. Je veux voir quelqu'un pour ça, etc. Parce que je suis tellement, du coup, sur la défensive sur tout. Et je l'étais pas il y a quelques années. Mais moi, je pense pas que ce soit un défaut. C'est-à-dire qu'il faut juste l'adoucir un peu, ce trait-là, tu vois. Avant, j'étais l'opposé.
Oui,
c'était
peut-être trop.
C'était trop avant. J'étais trop jeune. Et je te dis, ça m'est tombé dessus. J'ai rien compris. Les gens qui se connectent à ton blog. Et les gens qui viennent te voir, qui veulent. Enfin. Maintenant, de toute façon, je trouve que c'est difficile de quand tu connais un succès dans ton travail, ça c'est difficile de garder le même équilibre tout le temps.
Ouais.
T'es obligé de te reprendre à des moments, tu vois. Et heureusement, moi, je suis très très proche de ma famille. Elle m'a déjà remise en place plein de fois par rapport à mon attitude qui était trop méfiante, tu vois, en me disant mais t'es folle, tu vas devenir parano, tu vas mourir d'un ulcère toute seule, tu vas te faire du mal, tu vois. Mais c'est comme ça. Mais je trouve que c'est sain, tu vois. C'est sain parfois, ces petits rappels à l'ordre comme ça. Et voilà, il faut juste soigner ces petits mots.
Complètement. Ben, merci en tout cas d'avoir partagé ça. Du coup, justement, en termes de conseils, une question que j'aime bien poser, c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
Ah, oh, waouh, c'est dur.
Pas facile.
Parce qu'il y en a tellement qu'on m'a donné.
Un qui t'a particulièrement marqué, tu vois, que t'as en tête.
Un conseil qu'on m'a donné je sais pas si on me l'a donné à un moment précis, mais en tout cas, une idée que j'ai en tête, que j'ai pu entendre, c'est... En fait, à un moment, j'ai connu tellement de succès quand mon blog a démarré. Ça allait tellement vite, tellement fort et c'était tellement impressionnant ce qui était en train de se passer. Tu vois, je commençais à faire des plateaux télé, des trucs, etc. Enfin, et à un moment, j'ai eu peur de l'échec ou de la descente. Tu vois, je me suis dit, merde, mais comment je vais faire si à un moment, ça s'arrête, etc. Et j'ai appris à relativiser là-dessus. Et je me suis rendu compte, en fait, à force d'en parler avec des gens un peu plus sages... que même si à un moment t'étais amené à connaître un échec, c'était pas très grave, tu vois. Un échec, c'est pas grave. T'es pas condamné parce que tu vis un échec, tu vois, professionnel, et que t'as le droit d'être au top, t'as le droit de te péter la gueule pour mieux rebondir. Et ça, c'est ce que j'aime aux États-Unis, c'est cette mentalité qu'ils ont. Tu vois, aux États-Unis, tu te pètes la gueule dans ton entreprise, on t'applaudit, on dit c'est génial, t'as essayé. C'est quoi, tu vas recommencer. Ici, c'est peut-être un peu cliché ce que je dis, on va te juger. Tu vas être jugé, on va te montrer plus du doigt, tu vois. Quand tu tentes quelque chose, que ça ne fonctionne pas, on va être dans le pathos, quoi.
Non, mais c'est sûr qu'aux États-Unis, enfin, c'est un peu c'est comme tu dis, un peu un cliché, mais c'est en même temps un cliché parce que probablement c'est un peu vrai quand même. Ils acceptent quand même beaucoup plus facilement l'échec et le rebond, et même ils le valorisent. En fait, c'est vrai qu'en France, on essaye de le mettre plus en avant, mais c'est pas facile.
Ouais.
Je voulais aussi parler un petit peu du blog et de ta méthode de travail. Je trouve ça toujours hyper intéressant de rentrer un peu dans le détail de la méthode de travail. Je sais que tu travailles tout le temps et que tu travailles énormément. Je Est-ce que tu peux me raconter un petit peu, déjà, en fait, comment t'élabores? Alors, tu me dis que c'est spontané, mais comment t'élabores un petit peu ton planning de poste en fonction de tes inspirations? Mm-hmm. Est-ce que c'est naturel? Est-ce qu'au contraire, t'es hyper carré et tu planifies hyper longtemps à l'avance? Mm-hmm. Comment ça se passe?
Bah, les deux, en fait. Contrairement au démarrage de mon blog, aujourd'hui, j'ai des marques qui me suivent et qui vont me rémunérer pour créer du contenu. Donc, soit sur mon blog, soit sur ma chaîne YouTube, soit sur mes réseaux. Quand c'est en partenariat avec une marque, du coup, tout est planifié. C'est-à-dire que je vais créer ma série photo, je vais la shooter, je vais faire la DA, etc. Je vais m'entourer des personnes qu'il faut pour ça. Je vais rédiger mon article, je vais faire valider mon article par la marque ou ma légende sur Insta ou ce que tu veux. Et on va planifier ensemble une date de publication. Là, pour le coup, voilà, j'ai mon petit agenda, tout est mis en place. Après, quand c'est perso, c'est quand même... Si tu regardes mon feed Instagram, j'ai beaucoup plus de photos perso que de photos sponsorisées par des marques. C'est spontané.
Oui.
C'est hyper spontané. Après, c'est spontané, mais je perds jamais de vue qu'il va falloir que je poste un moment. Tu vois, là, on est début septembre, je suis rentrée de vacances. Je sais que là, j'ai 2 semaines tranquilles devant moi de postes liés à mes vacances, tu vois. Mais donc, je vais prévoir.
Après ça, tu sais que tu vas devoir anticiper.
Je vais devoir anticiper. Donc là, cette semaine qui arrive, je vais devoir shooter des tenues, etc., avec une photographe. Mm-hmm. Voilà, on va se faire un shoot d'une demi-journée dans la rue avec plusieurs tenues. Tu vois, je sais en fait à quel moment créer mon contenu, etc. Mais c'est important que ce soit organisé et cadré parce qu'il y a beaucoup de travail et que ça doit rouler comme ça. Mais il faut garder ce minimum d'instantanéité, tu vois. Et moi, je prends toujours du plaisir à poster une photo. Bah, que je viens de prendre instantanément ou poster une story, bah, de toute façon, ils le ressentent, hein, ta communauté le ressent, ça. Et c'est ce qu'ils veulent, hein.
C'est sûr. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est pour ça que je trouvais que la question, je m'auto-congratule un petit peu, était intéressante.
Ah ouais, t'as raison, elle l'est.
Non, mais c'est qu'en fait, tu peux imaginer qu'en fait, c'est intéressant de vachement planifier à l'avance, mais en même temps, tu perds complètement aussi le côté authentique. Et moi, je ressens quand même de ton blog et aussi de ton Instagram que je suis, que t'as quand même vraiment une envie d'authenticité quand même. Et on en parlait au tout début avec aussi le Kenza SM Gross. Ouais. Tu vois, c'est cette idée d'authenticité, la trouve hyper intéressante. Et du coup, c'est pour ça que ça m'intéressait de savoir si toi, tu planifies beaucoup, mais je comprends qu'en fait, tu fais un petit peu les deux.
Ouais.
Ça marche. Et toujours au niveau un peu de ta méthode de travail, notamment sur tout ce qui concerne blog, Instagram, etc. Est-ce que tu vois des erreurs fréquentes chez les jeunes qui se lancent? Tu vois, mettons, t'as une jeune fille qui dit « Ok, moi, j'ai envie aussi de build up ma communauté, j'ai envie de devenir Instagrammeuse, etc. » qui va se lancer. Quels sont typiquement les trucs où tu lui dirais « Non, mais alors ça, surtout, arrête-toi, parce que ça va pas du tout marcher et c'est pas ce qu'il faut faire. »
Bah, je vois beaucoup de sur Insta, de jeunes, tu sais, mais qui vont un peu forcer la chose, en fait, qui vont forcer et provoquer les choses de manière pas très naturelle, qui vont créer des groupes entre eux pour se pusher, tu sais, t'as des espèces de groupes Instagram qui se créent, elles se font des boucles entre elles en direct message pour se booster, elles vont se mettre au point pour commenter elles-mêmes leurs photos entre elles, etc. Ça se booste vachement. Ça, c'est pas naturel parce qu'on le voit, tu vois. C'est pas grave en soi. Hein. Moi, je peux comprendre qu'on a envie de sortir du lot à une époque où c'est hyper dur de se distinguer sur les réseaux sociaux. C'est ce genre de d'attitude, tu vois, genre qui me déplaît un peu quand je me rends compte que les gens mettent au point des bots sur Instagram pour commenter ta photo de manière à se faire remarquer ou des faux likes ou des faux. Putain, ça c'est lourd, quoi. J'ai rien, enfin, c'est pas que j'ai rien contre ça. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, mais ça me fait un peu de peine en fait. Parce que moi, je suis convaincue d'une chose, c'est que si t'es réellement passionné et si t'es réellement engagé dans ce que tu fais, t'as pas besoin de toutes ces méthodes complètement fausses qui vont de un tromper ta communauté et de deux tromper les gens qui potentiellement travailleraient avec toi pour te démarquer. Après, bon, je vois aussi des trucs incroyables. Hein. Je vois des jeunes filles qui créent des blogs, qui me contactent en me donnant leurs liens, tu sais, parce qu'elles ont envie de partager potentiellement que je relais leurs trucs. Je vois des trucs tellement calibré, tellement beau, tellement bien fait. Et je me dis waouh, c'est génial parce que moi, enfin, quand j'ai démarré, c'était pas aussi beau. Et je trouve que c'est canon. C'est à double tranchant en fait.
Ouais, je comprends. Si on parle un petit peu de tout ce qui est mail et messages que tu reçois, j'imagine que t'es complètement débordée et que t'en reçois tout le temps parce que ça fait quand même un petit peu partie du métier.
Ouais.
Est-ce que t'as une méthode justement pour gérer tout ça, pour gérer les mails entrants, une appli que tu utilises?
Non. Pour ce qui est mail, en fait, je traite tout toute seule, 2 fois par jour. Alors, au démarrage, je faisais la grande erreur de consulter non-stop sur mon téléphone mes mails. Ça vibrait sans cesse. J'ai enlevé ces notifications qui ne servent à rien plus qu'à t'oppresser. Et maintenant, je prends 2 moments clés dans la journée. Donc, le matin, le matin et un moment dans l'après-midi ou en fin de journée, voire soirée, pour relever tous mes mails. Donc, je réponds à ce moment-là. Donc, j'ai enlevé ces notifications qui me prévenaient. Par contre, non, j'ai pas d'appli. Je fais un truc qui est pas mal sur Gmail. Je répertorie en fait tous mes messages non lus. C'est-à-dire que tu peux créer des espèces d'onglets où tu mets en priorité tous tes messages non lus. Parce que parfois, tu sais, tu as des urgences. Ouais. Donc, tu vas avoir tendance à répondre à des urgences, etc. Ça va laisser un trou entre deux messages non lus. Enfin, tu t'y retrouves pas. Donc, ce que je fais au moins, c'est qu'à chaque fois que je me connecte sur ma boîte mail, j'ai tous les non lus à traiter.
D'accord.
Et enfin... Je suis assez sérieuse avec ça, mais c'est vrai que maintenant, j'évite de répondre avec mon téléphone.
Ouais.
C'est vraiment pour moi des moments qui font partie de la journée de travail et je préfère me poser derrière mon ordi. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours mon ordi avec moi. Mmh. Je me déplace dans toute la journée quand je mets rendez-vous avec mon ordi. Il y a toujours un moment où je vais me poser dans un café ou quand je vais dans un showroom d'une marque, etc. Je vais prendre même 10 minutes. Hop, tu sais, tu peux envoyer tes pièces jointes, tes trucs. Et voilà.
Et c'est toi aussi qui gères tous les commentaires de ton Insta, de ton Facebook, enfin de tous tes
réseaux.
Ouais,
c'est hyper important.
D'accord.
Franchement, j'ai pensé plusieurs fois à déléguer. J'ai déjà été assistée, hein. J'ai déjà eu des assistants, etc. Mais j'ai jamais laissé, en tout cas, mon assistant Alex mettre le nez dans mes mails ou dans mes commentaires pour la simple et bonne raison que on s'adresse à la revue de Kenza. Kenza, c'est moi, et j'aurais l'impression de tromper, soit les gens qui me contactent, soit mes followers. Donc bon. Écoute, je continue tant que je peux. Un jour, j'aurai peut-être un bébé, j'aurai peut-être plus du tout le temps, je sais pas.
Peut-être. Bah justement, écoute, très belle transition parce que je voulais parler un peu plus perso pour terminer. Notamment, en fait, alors après, c'est pas forcément en couple, etc. Mais c'est plus de ta vie privée et notamment de ton emploi du temps, qui, j'imagine, est hyper chargé, hyper varié aussi. Est-ce que tu peux me raconter un peu à quoi ressemble une journée type de Kenza? Genre, à quelle heure tu te lèves le matin?
Trop tôt.
Qu'est-ce que tu fais? Enfin, voilà, vraiment étape par étape, que tu me racontes un peu à quoi ça ressemble.
Ouais. Bah, les journées, en fait, il n'y a pas vraiment de journée type, hein, normal, tu sais, c'est la vie de freelance, donc d'un jour à l'autre, ça peut être différent. Par contre, une chose est sûre, c'est que je me lève tôt, je me couche tard. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est des journées courses, tout le temps courses.
Tu te lèves vers quelle heure alors, par exemple?
Je me lève vers 7h parce que je fais du sport le matin, moi.
D'accord.
Donc, je vais au sport le matin, c'est
tous
mon petit moment. Ouais, j'essaye. Après, il y a des jours où vraiment je suis épuisée, où tu te lèves, et il pleut des cordes, t'as pas envie, je vais pas forcer, tu vois, je vais le faire à la maison, mon sport, et je vais le faire une demi-heure sur un tapis. Mais j'essaye parce que c'est le seul moment qui m'est donné que pour moi, et c'est hyper agréable. C'est devenu une sorte d'addiction, le sport. Mais c'est pas une addiction, genre, pour sculpter mon corps. C'est vraiment une addiction, genre, mentale. Je sais que c'est mon moment, tu vois.
Je
prends vachement de plaisir à prendre mon petit vélo, aller à ma salle, arriver, tu vois, voir ces têtes que je ne vois qu'une fois par jour dans ce contexte-là. Et mes écouteurs, c'est parti. Je me réveille en douceur. Je sors du sport. Je rentre vite fait à la maison. Je me fais mon petit chai. Tu sais, j'adore.
Trop bien.
J'adore les rituels, en fait. Je trouve que c'est hyper important, les rituels.
Surtout quand on a une vie comme toi qui part dans tous les sens, quoi.
C'est ça. Après, tu vois, par exemple, je voyage beaucoup. Donc, il n'y a pas un mois qui passe sans que je me déplace deux ou trois fois. Je me débrouille pour faire le sport, dans la salle, de l'hôtel ou peu importe.
Donc, tu gardes le rituel, même quand tu pars en voyage.
Ouais.
Tu continues à être rigoureuse.
Ouais.
Tu fais ton sport.
À part là, tu vois, vacances d'été. Au départ, j'étais hyper, hyper sérieuse et au bout d'un moment, putain, j'avais pas envie. Je me suis dit, tu sais quoi, t'as le droit à des vacances. En fait, tes rituels, tu peux les mettre de côté juste pendant tes vacances. C'est cool aussi. Mais non, du coup, ça démarre avec une séance de sport. Je rentre à la maison, je me bois un petit thé, je me prépare, je repars. En général, je me repars. Soit en fait, j'enchaîne celle de sport au premier rendez-vous vers 9h30 parce que je commence avec des petits déj. Soit je peux repasser à la maison et j'enchaîne un rendez-vous à 10h, 10h30. Ça peut être ensuite un déjeuner ou un rendez-vous avec une marque, ensuite un shooting dans l'après-midi en studio ou avec un photographe amateur dans la rue. Je repasse toujours en fin d'après-midi à la maison. Il me faut toujours ce temps à la maison en fin de journée, donc vers 18h, où je vais pouvoir relever mes mails, passer mes coups de fil au calme, etc. J'ai besoin de mon environnement maison. Et ensuite, je ressors. J'ai toujours des événements tous les soirs, donc je ressors. Je rentre de mes événements, il est 23h. Et là, le défaut que j'ai, c'est qu'à 23h, j'arrive pas à ne pas retourner sur ma boîte mail. Donc à 23h, en général, je retourne sur mes mails parce que j'aime bien me coucher, tu sais, avec l'idée qu'ils soient tous torchés.
Ouais.
Et je réponds, mais ça, j'essaye de lutter contre ça. Je me
Inbox dis, zéro à 23h, c'est bien, mais du coup, c'est fatigant.
Du coup, en fait, le problème, c'est que je me couche tard et je me lève tôt.
Ouais.
Et ça, c'est moi qui suis mal organisée. Tu vois, tu peux avoir des courses marathon, mais bien organisées. Mais moi, le problème, c'est que c'est pas un problème, en fait. C'est que j'ai des événements tous les soirs, des événements où je suis conviée ou des événements que j'organise, etc. Donc, et c'est vraiment tous les soirs de la semaine, à part peut-être le lundi ou le mardi, tu vois. Et lundi ou le mardi, mais t'as toujours des trucs. Donc, c'est vrai que je vois pas beaucoup mes amis. pas assez, en tout cas comme je le voudrais. Donc j'essaie de me rattraper le week-end à des moments. Tu vois, avant, tous les week-ends, on shootait. Tous les week-ends, je shootais. Et là, depuis que je suis revenue de Los Angeles, je shoote plus le week-end. Parce que j'ai compris à Los Angeles à quel point c'était cool de retrouver une vie sociale et de recevoir ses amis à la maison.
Ouais.
Chose que je ne faisais plus. Parce que mes amis, je les voyais dehors entre deux rendez-vous.
Ouais, je comprends.
Ouais. C'est pas sain, c'est pas bien.
Non, c'est sûr. Mm. Et justement, alors le week-end, tu essayes de complètement couper et de pas travailler ou tu bosses quand même?
Non, je bosse. Tu bosses mais aussi. Détente. Tu vois, genre ce matin, là, aujourd'hui on est samedi, je me suis levée, je suis allée à mon sport, j'ai mis mon réveil parce que tu vois, j'aime pas gâcher
donc
mes
même
journées.
Le week-end, en fait, ça va être vers
7h. Ouais, mais ça, c'est plus parce que je prends plaisir à mettre mon réveil le week-end parce que je veux pas gâcher mes journées. Sinon, je sais que je fais des énormes grasse mat, je suis une grosse dormeuse et j'ai pas envie, tu vois. Donc, j'ai mis mon réveil, je suis allée au sport, je suis revenue du sport, j'ai bossé sur mon ordi. Je suis allée déjeuner avec ma mère en terrasse.
Sympa.
Ouais, et je suis revenue, je te vois.
Ouais.
Bon, j'ai un rendez-vous après, ok. C'est un rendez-vous mi-boulot, mi-perso. Ensuite, je fais un petit concert. Enfin, tu vois, et c'est... Non, mais voilà. Oui, j'ai shooté une petite série aujourd'hui avec ma mère. J'ai juste dit à ma mère, allez, s'il te plaît, on prend 10 minutes. Mais 10 minutes avec ma mère, j'ai pas pris rendez-vous avec un photographe, tu vois. Ça va.
Ouais, ouais, non, mais quand même, ça veut dire que t'as des journées qui sont sacrément bien remplies. Et justement, ma question, c'est comment tu fais pour tenir le coup au niveau du sommeil? Tu dis que t'es une grosse dormeuse, mais t'as pas l'air de dormir tant que ça.
Non.
Comment tu fais du coup? Tu gères quand même parce que t'es motivée, que t'es hyper passionnée, mais
ouais,
est-ce que t'as... Il y a pas tellement de secrets en fait, c'est juste.
Non,
que
mais je pense que l'hygiène de vie elle y est pour beaucoup, hein. Parce que je peux te dire que quand tu prends autant d'avions, que tu manges souvent à droite, à gauche, pas aux mêmes heures. Moi, je sais que ça a un peu joué sur ma santé à un moment, tu vois. J'avais des maux de bide de ouf à cause de ça. J'étais un peu dépressive à un moment, tu vois. Un peu dépressive, je pleurais tout le temps. Ouais, je craquais. Enfin, c'était il y a 2 ans, j'ai eu une sale période. Mais je pense que c'était dû à ça, en fait, à ce surménage, tu vois. Mais voilà, et j'avais mal partout et mon dos se coinçait tout le temps parce que j'ai une scoliose. Enfin, tu sais, j'ai... Tous les signes, en fait, qui t'alarment et qui te disent, hey, calme-toi, tu vois, genre, à un moment,
c'est clair.
T'as un corps, faut le respecter, tu vois. Et, en fait, non, je pense que l'hygiène de vie, elle est hyper importante. Donc, maintenant, je fais un petit peu attention à ce que je mange plus qu'avant.
Je fais du sport.
Ouais, je fais du sport. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup, beaucoup. Le sport, ça a arrangé beaucoup de soucis. Beaucoup de soucis qui étaient liés au sommeil, justement. Parce que j'avais sommeil tout le temps.
Ouais.
Maintenant, le sport, bah, même quand je suis fatiguée, que j'y vais, je suis un peu fatiguée, j'ai pas envie, etc. Quand je sors de là, je te jure que j'ai l'impression d'avoir fait une nuit de sommeil entière. C'est un truc de dingue. Non, non, c'est vraiment nécessaire pour un rythme de vie. Voilà. Non, après, voilà, je fume pas, je bois pas. Enfin, tu vois, le soir, je suis raisonnable. Quand mes copines sortent et se font des teufs le jeudi soir, moi, le jeudi soir, il n'y a pas de teuf parce que vendredi matin, je me lève. Je sais que c'est chiant et je sais que j'ai commencé ça tôt. Je me souviens quand j'avais 23 ans, j'étais déjà la mamie du groupe parce que j'étais celle qui bossait avant tout le monde. J'ai commencé plus tôt que tout le monde, ça, tu vois, quand mes copines étaient encore étudiantes et faisaient la fête. Et, mais j'étais pas mal. C'est-à-dire que je recevais des textos, je me souviens, je me réveillais le matin parfois à 7 heures. Je recevais des textos de mes potes qui étaient envoyés à 6 heures du mat. Genre, ouais, tu fais quoi, machin, viens. Et je me disais pas, oh non, j'ai encore raté une soirée. Je me disais, mais je suis trop contente, moi, de me lever là maintenant et d'aller faire mes rendez-vous. Je suis trop contente. Je kiffais. Et voilà. En fait, quand t'aimes ce que tu fais, c'est plus simple, hein.
C'est plus facile. Et alors, quand même, au niveau sport, tu fais quoi comme activité? Tu varies un petit peu? C'est quoi? C'est running? C'est renforcement musculaire? Tu fais un peu de tout?
Ouais, je fais un peu de tout. Je vais en salle, en fait. Je vais en salle parce que j'avoue que j'aime pas courir dehors. Je vais en salle et je fais soit des cours. Donc, des cours de body pump. Tu vois, c'est des espèces de renforcement musculaire avec du cardio. Ça te prend 3 quarts d'heure dans la journée. Tu sors de là.
T'es
boosté, t'es lessivé, mais au moins t'as fait le job.
Ouais.
Sinon, bah, toute seule, je me fais un peu de tapis, comment on appelle ça? Machine de muscu.
Ouais.
Je me fais des étirements sur mon tapis, des squats, des abdos. Enfin, je change mes rituels selon les jours. Il n'y a pas vraiment. Voilà, et puis sinon, j'adore le pilates. J'adore le pilates, mais le pilates qu'on trouve aux États-Unis, qu'on ne trouve pas encore en France, le Megaformer. Il n'existe pas ici.
D'accord, je ne connais pas, tu vois, j'ai regardé ça.
C'est une machine, ce n'est pas le reformer comme on connaît avec les trucs façon un peu SM. C'est... Non, mais tu vois, c'est une espèce de machine. Non, c'est vraiment Megaformer, c'est des machines toutes petites, mais c'est génial. C'est un vrai mélange de cardio et de pilates.
D'accord, bah je vais regarder ça, je mettrai ça dans les notes.
Oui.
Pour terminer, j'ai une question que j'aime bien poser sur les livres que tu recommandes, que tu as aimés, qui t'ont particulièrement marqué ou que tu peux recommander autour de toi.
Attends,
est-ce qu'il y a un peu quelques bouquins voilà, dont tu peux me parler? Ça peut être sincèrement de la littérature, ça peut être de l'entrepreneuriat, ça peut être sur la mode, ça peut être même des magazines si tu veux.
Oui, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai lu récemment que j'ai aimé? J'ai lu un livre qui s'appelle « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même » de Lise Bourbeau.
D'accord, je
connais
pas.
Lise Bourbeau, c'est une psychologue, peut-être que je dis une bêtise, hein, peut-être psychiatre, psychologue, je sais pas, mais qui est québécoise et qui avait sorti un livre qui a été un best-seller qui s'appelle Écoute ton corps. Et en fait, elle donne vachement de conseils. C'est-à-dire qu'en fait, à travers ces livres, enfin en tout cas le livre qui s'appelle Les 5 blessures qui empêchent de soi-même, tu vas détecter quelle est ta blessure principale. Parce que chaque être humain a une blessure qui trimballe plus qu'une autre. Forcément, on a un passif. Et alors après, c'est encore c'est dans mon délire, hein, un peu perché. Mais elle part du principe qu'une âme, toi aujourd'hui, t'as une âme, bah, que ton âme avant appartenait à une autre entité.
D'accord.
Et que tu trimballes peut-être les blessures de cette autre entité.
D'accord.
Vrai, faux, je sais pas. Mais quand tu lis ce livre, si t'es un peu spirituel, tu te reconnais d'une certaine manière dans un des profils qu'elle propose, 5 profils.
D'accord.
Et elle te propose la solution pour guérir ce souci. C'est des trucs un peu de développement personnel, tu vois.
Ouais, je comprends.
Et ça m'a, moi, j'ai adoré ce livre. J'ai lu quoi d'autre? J'ai lu, le livre Le charme discret de l'intestin.
Ouais.
Comment on dit? Julia.
Je connais
Julia,
pas le nom.
Je sais plus comment. Attends, Julia Enders, un truc.
Je l'ai pas lu, je t'avoue, mais j'ai vu qu'il il est très successful.
Et écoute, j'avais pas du tout envie de le lire, parce que je me disais, putain, un livre sur le bide, c'est pas très intéressant, mais hyper intéressant.
Et qui, globalement, dit qu'il faut manger, je crois, moins de produits animaux, notamment.
Bah, elle te conseille, mais surtout, elle t'explique à quel point le ventre est important dans ton bien-être et que que c'est probablement même le premier cerveau de ton corps. Et c'est vrai que il se passe beaucoup de choses dans ton ventre et en fait je trouve que c'est intéressant. J'aime bien lire ce genre de livre qui te permet de te connaître mieux,
tu vois,
faire un travail sur toi que t'as peut-être pas le temps de faire dans la vraie vie parce que t'es à fond, t'es speed, etc. Et moi il y a 2 ans, tu vois, quand j'ai commencé à avoir des problèmes genre de ventre, de thyroïde, mal de dos, etc., je me suis penchée sur tous ces trucs là en me disant en fait j'ai jamais pris le temps d'écouter les signaux de mon corps, tu vois, je suis toujours dans le rush et j'ai commencé à lire tout ce genre de livres. Bon, t'es pas obligé de lire ça comme une bible, hein. Mais
non, bien sûr.
Voilà, il y a eu celui-là. Je te dis ce que j'ai lu récemment. Là, je suis en train de relire le livre de ma mère d'Albert Cohen.
Magnifique.
Je trouve c'est hyper intéressant.
Ouais.
Ce que j'ai lu quand j'étais petite, mais du coup, je voulais le relire. Et je viens de lire le livre de Mathilde Lacombe que j'ai adoré.
D'accord.
Comment
je l'ai pas
il
lu
s'appelle
non plus. Qui est Mathilde Lacombe, qui est une blogueuse aussi et qui est fondatrice de
Birchbox.
Attends,
comment s'appelle son livre? Bon. J'ai un trou de mémoire.
Je le mettrai dans les notes aussi, je vais faire la petite recherche.
Je viens de le lire, mais alors tu sais, je l'ai acheté sur Amazon avant de partir en vacances. Je voulais une petite lecture un peu sympa et comme je connais Mathilde, je me suis dit, j'ai jamais lu son livre, je vais le lire.
Ouais.
Et en fait, j'ai adoré parce qu'elle t'explique comment, à travers un emploi du temps hyper speed, sachant qu'elle a 3 enfants, comment t'organiser, tu vois.
D'accord.
Et moi, j'ai pas d'enfants, mais du coup, tout ce qu'elle disait, ça me parlait parce que c'est des choses que j'applique déjà à moi-même.
Bien sûr.
Mais je le recommande à des gens qui ont besoin de s'organiser et de se cadrer, qui n'arrivent pas à gérer et vie perso, et vie pro, etc. Et je trouve qu'il est hyper bien fait, c'est hyper frais, les photos sont jolies et c'est facile à lire.
Bon bah top, écoute, je le mettrai dans les notes. Génial. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour tout le temps que tu m'as consacré.
Merci.
Pour terminer, c'est évident et je pense que ça sera très simple, mais si on veut te trouver sur le web, où est-ce qu'il faut te chercher, Kenza?
Bah ouais, tu tapes soit la revue de Kenza sur Google, c'est mon blog, ou sinon Kenza SMG, les 3 lettres.
Exactement.
Et voilà.
Je mettrai en tout cas tout ça en note. Bah écoute,
cool.
Merci en tout cas pour tout ton
merci
temps.
Merci à toi.
Merci pour ce partage et à
merci.
Bientôt.
Merci.
Hello à nouveau. Et quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode, avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, c'est simple, allez directement sur le descriptif du podcast, sur l'appli de votre choix. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, me proposer de nouveaux invités peut-être, ou juste me faire un feedback, n'hésitez pas. J'adore ça, les feedbacks. Donc foncez directement sur Twitter ou Instagram sous le pseudo Pelaigneau, @PLAIGNEAU. J'essaye de répondre quand on me parle, donc n'hésitez pas. Et comme à chaque fois, vraiment mille merci d'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas, si le podcast vous plaît, que vous appréciez tout ce travail, le plus simple pour m'aider, c'est tout simplement de mettre soit un petit mot doux, soit une note 5 étoiles sur iTunes ou de partager sur vos réseaux sociaux aussi. Ça donne le moral, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast, donc n'hésitez pas. Voilà, merci à tous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.